journal est présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, la pauvreté en France et les données de la Fondation Abbé Pierre, le nombre de sans-domicile fixe est effrayant, selon son délégué général. Précision de Sarah Ders dans un instant. La guerre au Nagorno-Karabakh, la colère contre le Premier ministre arménien après la signature d'un cessez-le-feu semble s'atténuer. Le bilan des soldats morts au combat est tel que les accusations de traîtrise ont à fait l'objet de Nicole Pachinian. Se font plus rares, analyse à Yerevan de Régis Janté. Promu par la Chine et signé à la faveur d'un sommet virtuel de l'ASEAN, un nouvel espace de libre-échange a vu le jour ce matin et c'est le plus important au monde en termes de produit intérieur brut. La face cachée du globe, signée ce samedi, Nadine Epstein s'intéresse au Sahara occidental où les tensions entre l'armée marocaine et le Front Polisario s'accentuent depuis quelques jours. Quand l'essentiel est de survivre, il y aurait aujourd'hui en France 300 000 sans-domicile fixe. Et selon la Fondation Abbé Pierre, ils sont aujourd'hui deux fois plus nombreux qu'en 2012. Et la Fondation ne se hasarde pas à évaluer le nombre de sans-abri. Non, elle se contente de mobiliser les esprits, moyennant des locutions qui claquent. Bonjour Sarah Ders.
Bonjour Mathieu.
Sarah, est de craindre que ce deuxième confinement ne fasse sombrer une partie d'entre eux dans la très grande précarité.
Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, promettait Emmanuel Macron. Une question pour lui de dignité, d'humanité et d'efficacité. 3 ans et 2 confinements plus tard, ils sont toujours en France, vous le disiez, plus de 300 000 à vivre dans les rues, le double depuis 2012, le triple depuis 2001. Plus qu'un chiffre d'ailleurs difficilement quantifiable, une réalité effrayante qui doit servir d'électrochoc pour Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
On voit en ce moment, dans les grandes villes de France, plusieurs milliers de personnes qui appellent le 115, le numéro d'urgence, et qui ne se voient proposer aucune solution parce que tous les hôtels sociaux, le secteur de l'hébergement est complètement rempli, en fait, bloqué, en fait. Et donc, c'est extrêmement préoccupant. Vous avez 16 000 personnes qui sont en bidonville. Vous avez des personnes qui sont hébergées chez des tiers, mais du jour au lendemain, la personne qui les héberge ne peut plus les accueillir. Donc on se retrouver sans solution, vous avez des personnes qui craignent d'être expulsées.
Et des personnes, rappelle Christophe Robert, qui elles se font expulser des squats et des bidonvilles ces derniers mois.
Voilà Sarah, une autre problématique a conduit la Fondation Abbé Pierre à tirer la sonnette d'alarme pour prévenir, je cite, une bombe à retardement. Il s'agit du logement et des expulsions à venir au printemps prochain.
Oui, beaucoup de gens risquent de ne plus pouvoir payer leur logement. Les raisons, la crise économique et le chômage de masse accentué donc par la crise sanitaire. Criant lui aussi l'urgence, Jean-Baptiste Hérault, porte-parole de Droit au logement, regrette qu'aucune mesure spécifique n'ait été prise par le gouvernement, sinon des propos rassurants alors que des solutions existent.
On n'a jamais eu autant de logements vacants. On bat tous les records, il faut que l'État réquisitionne. Il n'y a pas d'autre solution. On a 300 000 personnes dans la rue, 3,2 millions de logements vacants. Sinon, on va avoir beaucoup de gens qui vont mourir de froid, qui vont mourir dans la rue. Il y a vraiment de quoi faire, il n'y a pas de problème. Après, on arrête de faire des économies sur les APL. Et ensuite, on baisse les loyers et on produit, on injecte de l'argent pour produire massivement des logements sociaux. On suspend les expulsions. On efface les dettes locatives des personnes qui n'ont pas les moyens de payer. Sinon on va vers une expulsion. Et puis, éventuellement, ce qu'on fait aussi pour les ménages modestes, eh bien, on fait un moratoire des loyers. C'est-à-dire on suspend le paiement du loyer pendant cette période très difficile que nous traversons pour les ménages les plus en difficulté. Parce que, ils le savent, la rue, c'est la mort.
Une crise du logement, rappelons-le Mathieu, qui s'aggrave depuis une vingtaine d'années déjà.
Merci à vous Sarah Ders. Et en ce dimanche de lutte pour les Français de confession catholique mobilisés pour le retour des messes interdites en ce reconfinement, Monseigneur Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon, qui n'adhère pas aux célébrations de rue envisagées par une partie de la communauté, invite les fidèles à se concentrer sur l'une des missions de l'Église.
Que ça soit une situation violente, c'est évident, alors que le fondement de l'Eucharistie, c'est justement de rassembler la communauté en un seul peuple. Mais ne soyons pas des victimes pleurantes, soyons des victimes agissantes. Aujourd'hui, c'est la journée des pauvres, et une manière de rencontrer le Christ pour nous, c'est de rencontrer les pauvres, et il y a beaucoup de choses à faire en ce moment pour que les pauvres ne soient pas seuls. Et il faut aussi que nous pensions à un Noël où les plus seuls ne soient pas seuls.
Des propos recueillis par Matteo Maestrati. Au Nagorno-Karabakh, en attendant le déploiement complet des forces russes et la réouverture du corridor de Latchin, cordon ombilical reliant l'Arménie à l'enclave, la seule voie d'accès est une route passant par le nord du territoire, par le district de Kalbadjar, qui doit être rétrocédée ce dimanche à l'Azerbaïdjan. Aux scènes de désolation, les habitants incendient leurs maisons et couchent les arbres. Il faut ajouter l'infinie tristesse des familles endeuillées et la colère, car le pouvoir aurait capitulé pour une partie de la population. Les autorités rétorquent que, compte tenu de la puissance des forces azerbaïdjanaises, le bilan des soldats tombés au front, plus de 2317 morts selon un bilan provisoire, aurait pu être beaucoup plus lourd. Autrement dit, il fallait cesser de combattre. Régis Jantet est à Yerevan.
L'humeur change en Arménie et au Haut-Karabakh, et le cessez-le-feu signé dans la nuit de lundi à mardi apparaît comme la solution qu'il fallait prendre. Après la stupéfaction qui reste 5 jours après la signature d'un cessez-le-feu synonyme de capitulation, les opinions tentent de se faire à la lumière des informations et analyses qui circulent. La manifestation de mercredi, qualifiant le premier ministre Nikol Pachinian de traître, est désormais regardée par beaucoup avec dégoût. C'est ce que nous racontait Armen ce samedi, un habitant de Kalbadjar qui vidait sa maison pour toujours, le district devant être rendu à l'Azerbaïdjan ce dimanche matin.
Ces manifestants sont surtout ceux qui se sont cachés dans leur maison pendant la guerre, sous les jupes de leur maman, profitant de leur salaire. Pendant ce temps-là, ici au front, c'étaient les vrais hommes qui se battaient, qui sont tombés pour la libération de leur terre. Ces manifestants ne sont jamais venus ici. Pendant les 45 jours de guerre, on n'a pas pu réunir 45 de ces manifestants.
Nikol Pachinian se défend, bec et ongles. Il a notamment révélé qu'il avait signé ce document, négocié par le président russe Vladimir Poutine, après des demandes répétées des dirigeants de l'armée arménienne et du Haut-Karabakh. L'avenir politique de Nikol Pachinian est certes incertain, mais sa chute pourrait être synonyme de grave crise politique, voire d'instabilité en Arménie. Et lui, en habile orateur et politicien, s'est aussi montré que cette défaite vient de loin et combien les responsabilités doivent être partagées de monsieur tout le monde au plus important. Importants dirigeants du pays, actuels comme du passé.
Les Moldaves ont commencé à voter ce matin pour le second tour d'une élection présidentielle disputée entre le sortant pro-russe Igor Dodon, qui prône la stabilité, et sa rivale pro-européenne Maia Sandu, qui promet une lutte sans merci contre la corruption. De sources diplomatiques basées à Addis Abeba, des roquettes tirées de la province du Tigré auraient atteint la capitale érythréenne Asmara. L'offensive lancée par Addis Abeba il y a 12 jours déclenche des affrontements qui dépassent les frontières du Tigré. Hier, bombardement d'aéroports en terre Amara et aujourd'hui frappe sur Asmara. D'ailleurs, la radio érythréenne d'opposition RNA, basée à Paris, citant des habitants d'Asmara, rapporte que ce sont 4 missiles qui ont touché la capitale de l'Érythrée. Au Pérou, des manifestations comme le pays n'en a pas connu depuis une vingtaine d'années. Des milliers de personnes dans les rues de Lima pour conspuer le président Manuel Merino, dont le gouvernement continue de défendre la destitution de son prédécesseur, Martin Vizcarra. 3 morts lors d'affrontements avec la police. Un nouvel espace de libre-échange via un accord commercial le plus important au monde en termes de produit intérieur brut signé ce dimanche à la faveur d'un sommet virtuel de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, auquel ont participé 15 pays. Un espace souhaité et promu par la Chine. Les précisions de Shanghai de Simon Leplâtre.
Il leur aura fallu du temps, 8 ans en tout pour parvenir à cet accord, mais les principaux pays d'Asie de l'Est ont signé dimanche le partenariat régional économique global. Ce partenariat crée une vaste zone de libre-échange en réduisant les taxes à l'import sur la plupart des produits manufacturés. Beaucoup de produits agricoles, en revanche, considérés comme stratégiques pour des raisons d'autosuffisance, ne sont pas concernés. Le partenariat rassemble les pays de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, et la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et puis les grandes économies régionales, Corée du Sud, Japon et Chine. L'Inde est la grande absente, elle s'est retirée des négociations de peur d'être envahie de produits chinois bon marché, alors qu'elle cherche à développer sa propre industrie. L'autre grand absent, ce sont les États-Unis qui se sont retirés l'année dernière du TPP, un accord de libre-échange avec l'Asie, au départ poussé par Washington. Au contraire, la Chine, plus grande économie de la région et premier exportateur mondial, devrait fortement bénéficier de cette vaste zone de libre-échange.
Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour à vous. L'armée marocaine est intervenue au Sahara occidental pour débloquer le trafic routier vers la Mauritanie. Le poste frontière de Guerguerat, à l'extrême sud du territoire désertique, était obstrué par des centaines de Sahraouis venus manifester pour demander l'organisation d'un référendum sur leur autodétermination. Le Polisario, qui représente les Sahraouis, estime, lui, que l'intervention du Maroc constitue une violation du cessez-le-feu de 1991 et affirme que des combats se poursuivent. Pour Kader Abdelrahim, directeur de recherche à l'IPSE, ce regain de tension entre le Polisario et le Maroc va vite retomber.
Il y a un regain de tension, ça c'est incontestable, entre Rabat et les indépendantistes du Polisario. Je crois qu'il faut le lire dans le contexte régional dans lequel l'Algérie est aujourd'hui privée de son président qui est toujours hospitalisé en Allemagne depuis plusieurs semaines. Et donc, il semblerait que le Polisario ait cherché à profiter de cette situation pour tenter de pousser son avantage. Cela montre également que, y compris les Nations Unies, ne parviennent pas à régler cette situation dans un conflit qui dure depuis 1975, ce qui fait 45 ans. Et par conséquent, il n'y a pas beaucoup de perspectives politiques de règlement de ce conflit et encore moins, évidemment, d'une intégration régionale du Maghreb central.
Est-ce que le cessez-le-feu est menacé, vraiment ?
Non, je ne pense pas que le cessez-le-feu soit menacé et je ne pense pas que la situation se dégradera. Je pense qu'il s'agit d'un regain de tension dans un contexte politique un peu trouble aujourd'hui. Des tensions diplomatiques et militaires en Méditerranée avec la Turquie, d'une Algérie qui semble ne pas trop savoir où elle va sur le plan diplomatique, d'un Maroc plutôt offensif qui s'est redéployé sur le continent africain. Donc tout cela amène une redéfinition géopolitique dont le Polisario cherche à profiter, mais je ne suis pas sûr qu'il ait les moyens sur le plan des rapports de force de pousser son avantage.
Les Sahraouis réclament la tenue d'un référendum sur leur autodétermination, ce que l'ONU leur avait promis.
Oui, c'est vrai, c'est un vieux loup de mer. Pour parler franchement, il n'y aura pas de référendum. On n'imagine pas un instant que le Maroc renonce au Sahara aujourd'hui. Par conséquent, je crois qu'il faut chercher les voies d'un compromis direct entre les acteurs de ce dossier, quels qu'ils soient, que ce soit évidemment le Polisario, le Maroc. Le Maroc a fait une proposition, elle est sur la table, celle d'une autonomie très large du Sahara, c'est-à-dire que le Maroc ne peut pas accepter que sa souveraineté sur le Sahara deviennent un enjeu.
Cette crispation à Guerguerat intervient exactement 10 ans après les événements de Gdamninsik, où le Maroc avait par la force démantelé le campement de Sahraouis réunis pour réclamer leur indépendance et dénoncer leurs discriminations sociales et économiques. 13 policiers avaient été tués, 25 Sahraouis arrêtés. 19 hommes sont toujours emprisonnés depuis octobre 2010, dont celui considéré comme l'investigateur de la révolte. Nahma Asri a été condamné à 30 ans de réclusion. Sa femme, Claude Mangin, se pour sa libération. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois ?
Au mois de janvier 2019, mais j'étais interdite de séjour au Maroc depuis octobre 2016, donc une visite en 4 ans. Depuis la fin du deuxième procès en appel en juillet 2017, tous les prisonniers dits de Gdemizi, qui sont encore 19, ont été soumis à des restrictions graves, puisqu'ils peuvent être à l'isolement 23 heures sur 24 et pendant des dizaines et des centaines de jours, ce qui est une torture psychique. Ce n'est pas seulement lui qui crie à l'injustice, c'est bien le Comité contre la torture de Genève, de l'ONU, qui a condamné le Maroc pour la première fois pour fait de torture sur Nahma Asfari. Et c'est bien ça qu'on ne lui a pas pardonné et qu'on ne m'a pas pardonné non plus. Depuis 4 ans, il n'y a pas eu de possibilité d'entrer au Maroc, sauf une fois, suite à une grève de la faim que j'ai observée pendant 30 jours. Et donc, j'ai pu y aller 2 jours. Mais je n'ai pas pu y retourner la fois suivante. J'ai été expulsée en juillet 2019. Et dans le recours devant la justice marocaine que j'ai fait pour obtenir l'annulation de cette interdiction, il est écrit que je suis un trouble à l'ordre public et dangereuse pour la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Et pour le moment, je suis bel et bien interdite de séjour et c'est clair qu'ils veulent nous punir.
Est-ce qu'il tient le coup, votre mari ?
C'est vrai qu'il ne se victimise pas du tout. Pour lui, la prison, c'est un acte de résistance. Et résister, c'est exister, comme avait dit Mandela. On souhaiterait que la France fasse état de son amitié avec le Maroc pour obtenir la libération de tous les prisonniers politiques, ceux de Gdemizik et les autres, qui sont tous des prisonniers d'opinion. comme le dit et le répète, tous les mécanismes spéciaux de l'ONU. Ils sont tous en détention arbitraire parce qu'ils ont pris la parole pour demander le référendum d'autodétermination et pour demander l'indépendance.
Et on termine avec Aziza Brahim, la chanson de Gnabissi.
Merci à vous, Nadine Epstein. Le temps, dimanche, pour la France métropolitaine, pluvieux avec un vent assez fort sur le nord-ouest. D'ailleurs, le Finistère, la Manche, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange, vague, submersion. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet, à la technique Ludovic Auger.